Tu es dans du 95-97% d'occupation.
Écoute, c'est le prix pour le Grand Prix, en fait. C'est ça, c'est...
Les mesures dans ce plan sont un appui complètement nouveau de 8,9 milliards de dollars.
Bonne fin de journée, tout le monde. Bon jeudi, oui. C'est une fin de journée un peu mouvementée, en tout cas dans le Grand Montréal. On va vous montrer quelques images parce qu'il y a un intense système orageux qui touche la grande région de Montréal. On parle bien sûr de Laval, Montérégie, l'île de Montréal également. Là, en ce moment, vous voyez sur les images derrière moi, il y a une accalmie. Mais selon Environnement Canada, qui a envoyé une alerte sur les téléphones cellulaires, l'orage est... C'était quand même très dangereux, peut produire des rafales destructrices, de la grêle. D'ailleurs, vous en voyez, là, c'était sur le balcon d'un de nos collègues qui habite sur l'île de Montréal, de la plus forte. Les grêlons, on parle de 1 à 2 cm. Vous voyez ce cône également parce qu'il y a eu des alertes et des veilles de tornades qui ont été émises un peu plus tôt cet après-midi, entre autres pour la région des Laurentides, Lanaudière. Mais cette image-là, qu'on ne peut pas confirmer, bien sûr, là, que c'est un début de tornade, mais on voit quand même un cône comme ça. Ça a été filmé du côté du nord de l'île de Montréal. Il y a pas mal de pluie prévue, puis ça se dirige tranquillement vers l'est et plus précisément le sud-est. Alors, on va surveiller ça, bien sûr, au cours des prochaines minutes. Pour les trois prochains jours, ce qu'on surveille, c'est Montréal qui, vous savez, revit déjà depuis un certain temps avec le retour des festivals, qui va vibrer vraiment au rythme de la F1. Ça vient avec son lot de négatifs, comme la prostitution, dont on parle beaucoup ces temps-ci. Pour le centre-ville de Montréal, qui a tant souffert de la pandémie, la F1, c'est la manne. Les touristes arrivent en ville et envahissent les hôtels, littéralement. Les taux d'occupation sont à leur plus haut. Alors, essayez pas de trouver une chambre à un prix raisonnable en ce moment, parce que les prix sont vraiment gonflés partout. Nouveau Info a fait un petit exercice, celui d'essayer de trouver une chambre ou un appartement à louer sur les plateformes à location à court terme. Puis attention... Je pense que les gens vont faire le saut. Salut, Fanny.
Salut, Michel.
T'as regardé ça, toi, t'as fouillé, puis là, t'as trouvé un condo à louer. Attends un petit peu le prix. 7 600 $ la nuit à Montréal.
Il faut avoir du budget, hein. Si vous voulez venir en fin de semaine, ça va être cher. Et le pire, c'est qu'à ce prix-là, ils arrivent à les louer. Ces condos-là, ces appartements-là, effectivement, en ce moment, ben, il n'y a pas beaucoup de place de disponible. Alors, dernière minute, les prix augmentent. Il y a bien des Montréalais qui faisaient déjà de la location sur les diverses plateformes qui en ont profité, là aussi, pour augmenter leur prix pendant le week-end. Mais il y a aussi des gens qui n'avaient pas l'habitude nécessairement de mettre leur appartement ou leur condo à louer, qui, là, ben, en profitent aussi, qui ont flairé la bonne affaire. Je parlais avec une compagnie qui fait des ménages là, pour ce genre de plateforme-là, qui me disait qu'ils ont 70 % plus de demandes qu'en temps normal. Okay, ouais. Alors, il y a vraiment beaucoup de gens supplémentaires qui sont là-dessus ces jours-ci. Et moi, je me demandais comment c'est possible. Comment on peut réussir à louer un appartement à 7 600 $ la nuit? Si vous venez pour les 4 jours, c'est plus de 35 000 $.
C'est fou, hein?
C'est complètement fou. Alors, j'ai parlé avec le propriétaire, puis je lui ai demandé comment on y arrive et qui sont les gens qui louent ces appartements. Des locations à plus de 1 000 $ cette semaine sur la plateforme Airbnb, c'était pas rare à Montréal. Mais Frederico Panetta se vante, lui, d'avoir la location la plus chère en ville à 7 600 $ la nuit pour son condo dans le Vieux-Montréal.
Écoute, c'est le prix pour le Grand Prix, en fait. C'est ça.
Mettons que quelqu'un loue pendant 4 jours là, sur Airbnb. Là, je faisais le test. Je fais la location à compter de ce soir, puis je pars dimanche matin, la journée du Grand Prix. Ça coûte 36 000 $ pour dormir chez vous.
J'ai énormément de demandes. C'est sûr que moi, je garde mon prix très élevé. Puis on offre vraiment quelque chose de spectaculaire à ce condo-là. J'ai juste à choisir qui je veux parce que les demandes sont tellement... C'est dur à gérer, la demande, en fait.
J'imagine que c'est un week-end où on peut augmenter les prix, évidemment, pour les chambres d'hôtel parce qu'il y a beaucoup de demandes.
Bien, c'est l'offre et la demande. Hein. Donc, oui, effectivement, on peut augmenter un peu les prix. Ça reste que Montréal est quand même une ville... abordable. La plupart de nos touristes viennent des États-Unis, de l'Europe, donc arrivent ici avec des devises qui valent beaucoup plus cher que le dollar canadien.
Puis là, pendant le Grand Prix, ça coûte combien ici, une chambre d'hôtel à Montréal?
Et le prix moyen de la chambre pour le Grand Prix dans à peu près le centre-ville de Montréal était à 500 $ la nuit.
It was 500 a night.
It's $200 for the few nights.
About 600.
500.
Per night.
Per night.
About 1300 a night.
I think it's about $150. I booked in January though. So we got lucky.
Du 95-97% d'occupation, c'est sûr que c'est surtout, là, je vous dirais, le centre-ville, le Vieux-Montréal, même l'aéroport. Quand on s'éloigne un peu, il y a quand même beaucoup d'occupation.
Puis c'est qui ces gens-là qui ont ces montants-là à dépenser pour la fin de semaine?
Ben, les mêmes gens qui louent des grandes autos à Montréal, les mêmes gens qui vont au Grand Prix dans les loges, c'est ces gens-là.
Les Airbnb et ce genre d'hébergement, c'est quelque chose qui est là pour rester. Nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'ils agissent selon les règles. Respecter les règles, encaisser la TSH, qui est la taxe sur l'hébergement, jouer dans le même genre de règles que les hôteliers ont, puis on va vivre avec.
Je connais plusieurs personnes dans le coin de dans le Vieux-Montréal qui font un bon profit sur ce genre de festival. Bien, évidemment, c'est Grand Prix, mais avec les festivals aussi qui arrivent à Montréal et tout. Fait que c'est quand même le fun.
Et on poursuit avec notre collaborateur spécialiste en sport et affaires, Ray Lalonde. Salut, Ray.
Salut, Michel.
D'entrée de jeu, comment tu réagis à ça? 7 600 $ pour une nuit. Est-ce que ça se vit dans toutes les villes qui accueillent des Grands Prix?
Non. Tu sais, il y a 23 villes qui accueillent des Grands Prix. C'est un cirque mondial. Il y a cet effet-là que tu as une certaine attirance, une attraction de consommateurs de sport automobile partout dans le monde. Donc, se déplacer en touriste puis aller à une destination, ça, c'est particulier à la F1. C'est peu de ligues de sport font le tour du monde.
Oui, c'est ça. Puis en plus, il y a des gens qui viennent voir ça, mais qui viennent de loin pour voir ça.
Ah, ben oui. C'est comme un Las Vegas mobile. Une destination, il va se dépenser beaucoup d'argent, il va se faire beaucoup de choses, on va manger, on va être sur le party, mais on quitte après. Puis on s'attendait à brûler notre argent. Donc, on va payer peu importe ce que ça
coûte. Les gens sont prêts à payer, ceux qui viennent de loin, entre autres. Et d'autant plus que là, cette fois-ci, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de Grand Prix à Montréal. C'est un retour. C'est quoi l'engouement?
Bien, il y a plus d'engouement parce qu'il y a une accumulation de gens qui avaient acheté des billets il y a 2 ans, il y a 1 an. Puis ils ont encore leurs billets, puis attendent ce retour-là. Le retour d'événements publics, Michel, en grand nombre, des rassemblements publics, ça aussi, ça nous manquait. On le voit, là, qu'on est en train de faire le virage complet puis revenir à nos anciennes habitudes. Donc, il y a un engouement plus qu'à l'habitude. Puis en plus, bien, cette espèce de baisse de régime de Mercedes et de Lewis Hamilton qui ouvre la porte à Verstappen puis au Red Bull puis au Ferrari, bien, ça crée un peu plus de parité. Puis là, les gens aiment ça. Oui, Hamilton a dominé pendant tellement d'années, c'était comme un peu plate.
Alors, peut-être un peu plus de surprise.
Plus de surprise, bon. Plus d'enjeux.
Dis-moi rapidement, on va faire une petite, un aparté sport. Les coureurs, qui a le plus de chances de remporter la course?
Bien, moi, j'ai toujours un parti pris pour Lewis Hamilton, qui est le plus grand des pilotes de l'histoire, puis avait gagné sa première course ici à Montréal. Mais Verstappen a la meilleure voiture cette année. Ferrari sont plus compétitives. C'est une année décevante pour les Mercedes et Hamilton. Donc, tu sais, on peut pas prédire qui va gagner parce qu'on connaît pas les conditions de course encore. Mais au moins, il y a la possibilité que ça peut être 4-5 pilotes différents. On espère que Lance Stroll, le Canadien, et Latifi, l'autre Canadien, vont bien performer.
Bon, mais l'autre question, c'est est-ce que Montréal sera la grande gagnante? Parce que, bon, tu l'as dit, les gens viennent ici, ça rime avec party, ça rime avec dépenses. On les compte même plus pour certaines personnes, les dépenses. Exclusivité, est-ce que c'est bon pour Montréal?
Bon, il y en a toujours qui vont dire que des grands événements publics sont surestimés en termes de retombées économiques. Puis il y en a d'autres qui vont dire, bien, pour être une ville majeure, tu dois accueillir des événements majeurs. L'AF1 au Canada, c'est une ville depuis longtemps, c'est Montréal. C'est pas Toronto, c'est pas Vancouver. Puis en Amérique du Nord, Michel, il y a un engouement pour l'AF1. Un petit peu motivé par Netflix et Drive to Survive, mais une course à Miami, course à Austin au Texas, et l'an prochain à Vegas. Donc ça fait 4 Grands Prix dans le continent. Puis rappelle-toi que la F1 s'est achetée par des Américains de Liberty Media au coût de 4,5 milliards de dollars en 2016. Ils voulaient créer plus d'ampleur en Amérique.
Mais en même temps, la F1, ça amène son lot de retombées négatives. On entend beaucoup parler, bien sûr, de toute la question d'exploitation sexuelle, d'impact environnemental également, puis des compétitions qui se déroulent dans des pays où les droits de l'homme sont peut-être pas mal laissés à désirer. Est-ce qu'on doit continuer comme société d'appuyer ce genre d'événements?
Je pense que oui, mais d'un autre côté, je ne veux pas défendre la F1 qui a un problème d'image sur toutes sortes de facteurs, dont ceux que tu as mentionnés. Puis les courses d'F1 sont effectivement des rendez-vous qui peuvent créer des situations illicites, tu sais, qui ne sont pas souhaitables pour une ville, pour une communauté. En contrepartie, à la défense de la F1, le problème d'émissions de carbone, c'est pas vraiment le problème des voitures. C'est l'industrie de la F1, les déplacements, la logistique, le transport. Les voitures, c'est 1 % de leurs dépenses en carbone. sont les voitures.
Quand c'est on... d'amener les voitures ici.
C'est d'amener les voitures ici. C'est le cirque de déplacer tout ce monde-là à travers le monde entier pendant une saison complète.
Un point quand même intéressant. Merci beaucoup, Ray, d'avoir été avec nous. Bien sûr, ça va vibrer
sur
le son des moteurs en fin de semaine. Merci beaucoup.
Les Québécois, là, le débat souverainiste-fédéraliste, là, ça ne les intéresse plus. Il y a des partis qui voudraient nous ramener là-dedans. Ça ne les intéresse plus.
Bernard Drinville disait la semaine dernière que les Québécois étaient désintéressés par la souveraineté. Eh bien, il y avait peut-être raison si on en croit un sondage Main Street effectué pour le compte de Québec 125 et l'actualité. On va voir un premier tableau à la question si le gouvernement de François Legault tenait un référendum sur la souveraineté du Québec. Voteriez-vous pour ou contre? Mais regardez, seulement 33% des répondants dit qu'ils voteraient pour. Compte, c'est 67. On en parle avec Victor Henriquez, notre collaborateur. Bonsoir, Victor.
Bonsoir, Michel.
67% des Québécois qui voteraient contre. On est loin du 50% plus 1 pour pouvoir faire passer la souveraineté. Est-ce que c'est un écart assez grand pour laisser le concept de côté pour un bout, selon toi?
Tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la coalition Avenir Québec existe. Hein. La coalition, rappelons-le, existe à cause du fait qu'on voulait mettre de côté le débat entre souverainistes et fédéralistes pour amener le débat sur les vrais enjeux. Et c'est pour ça aussi qu'elle est populaire. On le voit, il n'y a pas d'appétit pour la souveraineté à ce moment-ci. Même s'il y a encore un tiers des Québécois qui voteraient pour, ça reste que c'est un niveau beaucoup trop bas pour atteindre, ne serait-ce que de rendre le débat... réaliste et intéressant.
On voit que l'écart est peut-être moins grand si on sonde que les francophones. 41% voteraient pour. Mais outre la langue, c'est entre les groupes d'âge qu'on remarque quand même une bonne différence. Il y a 27% des 18 à 34 ans qui auraient voté pour, alors que la souveraineté est un concept qui plaît à 43% des 65 ans et plus. Ça plaît davantage donc aux plus vieux. Les jeunes ont quoi? Visiblement d'autres priorités, Victor, que ce concept de souveraineté?
Tout à fait. C'est un des principaux enjeux pour les partis souverainistes, c'est que la jeunesse se préoccupe de moins en moins de cette chose-là. Oui, il reste encore un tiers, mais rappelons-nous, il y a plusieurs années, on disait souvent que du côté des jeunes, c'était quand même assez populaire. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Chez les personnes plus âgées, on voit que le niveau est un peu plus élevé que le chiffre global, mais chez les jeunes, il est plus bas. Donc, clairement, du côté des jeunes, on a d'appétit pour autre chose. Puis on le voit, on l'entend. Les jeunes parlent d'environnement, les jeunes parlent d'économie, parlent d'autres débats que le débat souverainiste-fédéraliste.
Et la répartition pour compte est assez intéressante, là, selon les allégeances politiques, on va voir. Bon, pour compte, c'est comparable entre les électeurs de la CAQ et ceux de Québec solidaire. Seulement 5% des répondants qui appuient les libéraux voteraient pour. Ça monte à 90% pour ceux qui appuient le Parti québécois. Somme toute, on voit qu'à part chez les libéraux et les conservateurs, l'option de la souveraineté dépasse les 40%. Ce qui est quand même 4 fois plus que l'appui que recevait le PQ dans les derniers sondages. Le PQ, qui est pourtant le principal véhicule de la souveraineté, c'est quoi le message, Victor, qui est lancé en quelque sorte au Parti québécois là-dedans?
Il y a deux messages pour moi. Le premier, c'est que le PQ n'est plus le véhicule de la souveraineté, même pour la majorité des souverainistes. Donc, chez les souverainistes, on comprend qu'il y a d'autres véhicules que celui du Parti québécois ou que ce n'est pas nécessairement une priorité à ce moment-ci. Et d'un autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est que les souverainistes se sont donné le choix d'être présents dans plusieurs partis. Notamment, on pense à Québec solidaire, un parti ouvertement souverainiste et qui, malgré ça, a quand même une minorité de ses sympathisants qui voteraient pour dans ce sondage-là. Donc, on voit vraiment que l'électeur souverainiste aujourd'hui est plus volatile. Du côté des fédéralistes, on a fait le plein chez le Parti libéral du Québec, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est en train de devenir le parti d'une vieille option et d'un vieux débat surtout?
Bon, aujourd'hui, les souverainistes peuvent se retrouver dans différents partis politiques, c'est ce qu'on remarque. Quel conseil aurais-tu à donner aux différents partis québécois à l'aube du déclenchement de la campagne électorale?
Parler d'autre chose. Ultimement, à ce moment-ci, il n'y a pas d'appétit. Bernard Drinville l'a dit lors de son intervention. Et ce qui est difficile pour deux partis principalement, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois, c'est que leur histoire est basée sur ce débat-là. Ils doivent parler d'autres sujets. Moi, je m'attends à ce qu'on entende le chef du Parti québécois, par exemple, oui, continue à parler du pays, mais il devra trouver une autre raison pour que les Québécois votent pour lui. Sinon, littéralement, on s'en va dans un mur. C'est la même chose pour le Parti libéral du Québec.
Et finalement, en terminant, les résultats de ce sondage-là, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais ou il y a quelque chose qui t'a surpris particulièrement?
C'est une tendance qui est là depuis plusieurs années. Le débat souverainiste-fédéraliste n'est plus le débat de l'heure au Québec. On est vraiment dans un débat gauche-droite et c'est là où Québec solidaire et la CAQ ont une possibilité de bien paraître.
Alors, c'est un sondage. Il y en aura certainement d'autres. Peut-être que la question de la souveraineté viendra également dans d'autres sondages. Merci beaucoup, Victor, d'avoir été avec nous. Bien sûr, vous trouverez, mesdames et messieurs, d'autres détails sur nouveau.info. Merci, Victor.
Merci, bonne soirée.
L'inflation est actuellement un casse-tête pour les différents paliers de gouvernement au pays. Le fédéral a annoncé aujourd'hui des engagements financiers pour aider la population à faire face à l'augmentation du coût de la vie. Ma collègue Sabrina Rivet a suivi ça pour nous. Bonsoir, Sabrina.
Salut, Michel.
Alors, la vice-première ministre du Canada a annoncé un plan de plusieurs milliards de dollars.
Oui, mais le plan, il faut le dire, avait déjà été annoncé lors du dernier budget. Alors, pour certains...
Alors, c'est un rappel.
C'est un rappel. C'est comme une non-annonce aujourd'hui quand même. Mais le gouvernement canadien voulait dire, oui, oui, nous sommes là pour vous aider à tenter de contrer l'inflation, pour vous aider dans votre portefeuille. Donc, oui, il y a une série, de, on dit entre guillemets, de nouvelles annonces qui ont été annoncées. Je peux vous en nommer quelques-unes. Donc, il y a l'allocation canadienne pour les travailleurs qui sera augmentée de 1,7 milliard de dollars. Ça va se passer cette année. Il y a un paiement aussi ponctuel de 500 dollars qui sera offert à ceux qui ont de la difficulté à se trouver un logement abordable. Il y a le gouvernement aussi qui veut, d'ici la fin de l'année, de réduire de 50 % le coût des services de garde et de réduire de 10 dollars par jour d'ici 2025-2026. Il y a le supplément aussi de revenus garantis qui sera augmenté, de même que les prestations du régime de pension du Canada. Dès cette année, ça aussi, bon, ça avait été annoncé, des soins dentaires qui seront gratuits pour les enfants de moins de 12 ans. Bref, ça reste que c'est une série de mesures qui visent à aider les ménages canadiens à faire face à l'inflation élevée, parce qu'on le sait, notre panier d'épicerie maintenant coûte une fortune. Mettre de l'essence également, ça coûte une fortune. Donc, les gouvernements tentent quand même de venir en aide aux Canadiens et aux Canadiennes. Et là-dessus, justement, on peut aller écouter la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland.
Les mesures dans ce plan pour réduire le coût de la vie sont un appui complètement nouveau pour les Canadiens. Il s'agit de 8,9 millions de dollars qu'ils n'ont pas reçus l'an dernier.
Bon, Sabrina, pour les partis de l'opposition, ces mesures, ben, même si elles ont déjà été annoncées, ne sont pas suffisantes.
Non, effectivement. Par exemple, on a le chef du NPD, Jack Meeting, qui dit ben, c'est du réchauffé, tout ça. On veut du nouveau pour aider les Canadiens et les Canadiennes. Même chose pour la chef par intérim du Parti conservateur du Canada, qui a dit ça fait longtemps qu'on voyait arriver cette inflation-là. D'ailleurs, au mois d'avril dernier, on était à 6,8 %. C'était la plus grosse inflation depuis 1991. Alors, on se dit, c'est pas nouveau. Là, on le voyait arriver. Pourquoi il n'y a pas des mesures plus concrètes et des nouvelles mesures qui sont mises de l'avant par le gouvernement canadien. Alors, évidemment, du côté de l'opposition, on va continuer à talonner le gouvernement de Justin Trudeau pour tenter d'aider les Canadiens et les Canadiennes à faire face à l'inflation. Bien entendu, quand même, lorsqu'on leur demande s'ils ont des solutions, bien là, ça reste à déterminer. Eux aussi pourraient également suggérer de l'aide pour les Canadiens et les Canadiennes. Mais bref, c'est du réchauffé quand même qui a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement de Justin Trudeau.
On continue bien sûr de suivre la situation de cette inflation. Merci beaucoup, Sabrina.
Ça fait plaisir.
À plus tard. Scène judiciaire maintenant, Hugo Fredette, qui a été condamné à 25 ans pour double meurtre, n'aura finalement pas droit à un nouveau procès. Le plus haut tribunal du pays a rejeté ce matin sa demande d'appel. Décision qui maintient donc celle rendue par la Cour d'appel en décembre 2021. Hugo Fredette avait été reconnu coupable en octobre 2019 du meurtre au premier degré de son ex-conjointe et de celui d'Yvon Lacasse, un bon samaritain qu'il avait assassiné avant de poursuivre sa cavale avec un enfant de 6 ans. Le rôle de l'ancien vice-président des États-Unis a été au cœur des audiences de la commission sur l'attaque du Capitole survenue le 6 janvier. On en parle avec notre collaboratrice Valérie Beaudoin dans un moment. La troisième journée d'audience publique de la commission sur l'attaque du Capitole s'est terminée en toute fin d'après-midi. Il y a surtout été question du rôle du vice-président Mike Pence. Notre analyste de la politique américaine, Valérie Beaudoin, est avec nous. Bonsoir, Valérie.
Bonsoir, Michel.
On a manqué t'avoir en studio avec nous, mais Dame Nature en a décidé autrement. Il fait vraiment pas beau dans la région.
Hey, l'électricité tient chez moi, au moins. Là. Pour l'instant, on peut se parler.
Pour 4 minutes, je l'espère. Le comité s'est vraiment concentré sur les pressions exercées par Donald Trump sur le vice-président américain Mike Pence à l'époque.
Oui, et par pression, on veut dire deux choses. Les pressions publiques, c'est-à-dire les pressions sur Twitter, parce que Donald Trump, à l'époque, avait accès à Twitter, pouvait le faire une cinquantaine de fois dans une journée pour dire que Mike Pence devait avoir du courage, être un patriote et empêcher la certification des résultats de l'élection qui donnait la victoire à Joe Biden. Ça, c'est la première des choses. Aussi en public, lors du discours du 6 janvier, On a dit à Mike Pence qu'il devait faire la bonne chose, sinon le président allait être extrêmement déçu. On se rappelle que ça a amené, disons, des dérives de la part des manifestants qui étaient sur place et finalement les pressions en privé vraiment répétées pour lui dire qu'il devait trouver cette voie, cette façon, parce que c'était leur dernière chance de pouvoir remporter l'élection à tout prix, parce que c'était vraiment ce qu'on souhaitait dans le camp Trump.
Et Valérie, on a répété durant l'audience de cet après-midi que Donald Trump et son entourage étaient au courant que c'était impossible qu'il puisse empêcher la certification.
Oui, deux choses là-dessus. C'était juridiquement et constitutionnellement impossible. Il s'était basé sur absolument rien de clair. Il y a un ancien juge qui l'a d'ailleurs affirmé à plusieurs reprises aujourd'hui. Et la deuxième chose, je dirais que c'est à peu près la bombe d'aujourd'hui dans cette actualité américaine, c'est de dire qu'il savait aussi que c'était illégal de la part de Mike Pence. On est quand même allé de l'avant avec le plan que le président et les gens de son entourage, verbalement, ils le savaient, que c'était illégal d'empêcher cette certification et qu'on aurait quand même poussé le vice-président à faire un geste illégal au nom de justement cette victoire qu'on souhaitait avoir, peu importe le coût politique, peu importe le coût, dans ce cas-ci, même criminel. Là, on aurait pu faire un acte qui était complètement illégal.
Bon, Mike Pence n'a pas eu seulement de la pression, beaucoup, beaucoup de pression. Il l'a échappé belle parce qu'il y a eu une révélation assez importante lors de ses audiences. Il y avait un plan clair pour exécuter le vice-président par des groupes d'extrême droite.
Oui, et tout à l'heure, je l'ai à peine abordé, ce côté où les manifestants, justement, voulaient menacer Mike Pence. Il y avait les gens qui scandaient qu'on devait le pendre, les gens qui disaient on va le traîner dans la rue et le juger. On était vraiment dans quelque chose qui était à l'extrême. Et là, on a eu un peu plus de détails. Parce qu'on le sait, on s'en est parlé à cette émission, il y a des groupes d'extrême droite qui sont impliqués, dont les Proud Boys. Ce sont des suprémacistes blancs. Et il y a quelqu'un, une taupe au sein de ce groupe, qui a informé le FBI qu'il y avait un plan clair. Si on réussissait à atteindre Mike Pence, on allait l'exécuter. Même chose pour Nancy Pelosi et on peut imaginer aussi peut-être pour Alexandria Ocasio-Cortez, qui est détestée par la droite aux États-Unis. Et on s'est rendu à 40 pieds du vice-président, qui lui a refusé de quitter l'endroit parce qu'il ne voulait pas avoir l'air justement de quelqu'un qui abandonnait le Capitole. Alors, il est resté sur place, mais on est vraiment passé très, très près de quelque chose d'encore plus terrible que ce qu'on a pu voir cette journée-là.
Qui était déjà terrible. Si on se projette dans le futur, Valérie, est-ce que tu crois vraiment à la possibilité que Mike Pence se présente en 2024 contre Donald Trump?
Écoute, pour la personne qui adore la politique américaine, j'aimerais bien voir cette opposition entre l'ancien patron...
Parce que ça ferait quelque chose à analyser, pas mal d'intéressant.
Parce qu'il manque tellement, d'actualité, donc j'essaie d'en chercher, voyons. Mais non, en fait, c'est une des possibilités parce qu'en ce moment, Mike Pence, on dit qu'il met la table pour une candidature en 2024, qu'il se détache de Donald Trump, de cette présidence pour avoir son plan. Lui, c'est quelqu'un d'extrêmement conservateur, de respecté chez les Républicains. Alors, voir s'il va se rendre jusqu'à la toute fin. Mais ça serait assez intéressant de voir un opposé à l'autre. Mais est-ce qu'il irait, la grande question, aller chercher les électeurs de Trump après tout ce qui vient de se passer? Ça serait assez difficile.
Hey, un mot en terminant, une seconde, l'audience, est-ce que ça se poursuit? C'est quand la prochaine étape?
C'est mardi après-midi, ça sera la prochaine étape sur 5 audiences qui vont rester au total.
C'est dans notre agenda. Merci beaucoup, Valérie. À très bientôt.
Merci.
Bye-bye.
À bientôt.
En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a rencontré ses homologues français, roumains, allemands et italiens aujourd'hui. En visite à Irpin, Emmanuel Macron ne s'est pas gêné pour qualifier les gestes de la Russie de crimes de guerre. Les quatre dirigeants ont également démontré leur appui envers la candidature de l'Ukraine.
C'est ici que, entre autres, les Ukrainiennes et les Ukrainiens ont arrêté l'armée russe qui descendait sur Kiev. Et donc il faut se représenter l'héroïsme de l'armée, mais aussi de la population ukrainienne. Et à côté de cela, vous avez aussi les traces, les stigmates de la barbarie, où des massacres ont été perpétrés, où nous avons eu les premières traces de ce qui sont des crimes de guerre, sur lesquels nous coopérons d'ailleurs très fortement.
Une décision sur la candidature de l'Ukraine qui souhaite joindre les rangs de l'Union européenne doit être rendue dans une semaine, quelques jours avant un sommet important de l'OTAN. Un autre effet inquiétant qu'a eu la pandémie, c'est la réduction du nombre de donneurs de sang. Alors que les réserves de sang du Canada n'ont jamais été aussi basses, la situation du côté d'Héma-Québec est quand même fragile. On va faire le point avec Laurent-Paul Ménard, les porte-parole d'Héma-Québec, qu'on retrouve ce soir dans les bureaux d'Héma-Québec. Bonsoir, M. Ménard.
Oui, bonsoir, M. Bérère.
Comment ça va du côté d'Héma-Québec actuellement, le niveau des banques?
Bien, écoutez, le portrait est plus nuancé que la situation dans les autres provinces canadiennes. À l'effet que Emma Québec est en mesure de répondre aux besoins des centres hospitaliers, les réserves sont quand même convenables. Mais ceci étant dit, on est dans une situation qui est préoccupante parce que avant la pandémie, on avait à peu près une personne sur quatre qui faisait un don pour la première fois dans une année typique. Pendant la pandémie, ce ratio-là, il est tombé à une personne sur huit et présentement, on est uniquement à une sur six. Or, il faut savoir que dans une année normale, on a un taux d'attrition, donc on perd à peu près 20 % de nos donneurs. Donc, quand on fait des chiffres, bien, on réalise qu'on n'a pas assez de renouvellement dans notre base de donneurs et donc c'est une situation qui pourrait devenir problématique aussitôt que l'automne prochain. Alors, donc, c'est très important pour nous et on lance un appel aux personnes qui n'ont jamais fait un don jusqu'à maintenant et qui souhaiteraient le faire.
Parce que, faisons le parallèle avec du côté de la Société canadienne du sang, là, vraiment, on a davantage de difficultés. On comprend que chez Emma Québec, ça va quand même un peu mieux. La difficulté, donc, trouver de nouveaux donneurs, c'est vraiment ça qui est difficile. Qu'est-ce qui freine les gens à donner du sang?
Alors ça, c'est toute une question et en 4 minutes, on va avoir de la difficulté à y répondre. Je vous dirais, bien souvent, c'est assez simple. Les gens sont occupés, on retourne à nos occupations normales après 2 ans de pandémie où est-ce qu'on était retiré. Puis il y a toujours la peur tout à fait normale des aiguilles. Et faut se le dire, aller faire un don de sang, on est très fiers une fois qu'on le fait, mais c'est quand même invasif. On doit répondre à des questions. Sur les médicaments qu'on prend, sur nos comportements à risque, sur une foule de choses. Puis par la suite, on doit quand même faire le don qui implique d'avoir une aiguille. Mm-hmm. C'est une peur qui est très commune.
Bon.
Alors, ça peut expliquer la situation.
Mais vous savez qu'il y a plein de gens qui attendent juste ça, de donner du sang. Ils attendent juste l'autorisation. À la fin avril, Santé Canada a annoncé la fin de l'exclusion des hommes gays comme donneurs potentiels. C'est tout un bassin de donneurs que vous pourrez aller chercher, qui pourront s'ajouter. La Société canadienne du sang, dont je faisais mention tout à l'heure, va mettre ces changements en place d'ici la fin du mois de septembre. Chez Emma Québec, ça se fera en 2 temps, dès le mois d'octobre pour le plasma, puis le reste, ça sera en 2023. Pourquoi cette décision d'attendre presque 1 an après l'annonce de Santé Canada?
Ouais. En fait, comme je vous disais, par rapport à l'appel actuel qui est fait par la Société canadienne du sang pour des réserves, bien, il y a des nuances avec le Québec. Ce qu'il faut retenir et ce que vos auditeurs doivent retenir, c'est qu'on s'en va exactement au même endroit. Et donc, on débute avec les dons de plasma. On dit en octobre, mais c'est à peu près à toute fin pratique en même temps que la Société canadienne du sang. Là, on parle d'une journée ou deux de différence. Et pour ce qui est des dons de sang total, c'est au plus tard, à l'hiver 2023, mais ça pourrait être avant. Donc, on va attendre de pouvoir avoir des confirmations. Mm-hmm. Mais la bonne nouvelle, c'est que les dons vont être plus inclusifs à l'échelle du Canada dans l'espace de quelques mois.
Bon. Et on encourage, bien sûr, les gens à aller donner du sang. On sait que l'été, c'est toujours difficile d'aller rejoindre des donneurs. Mais voilà, c'est important pour pas qu'on manque de sang au Québec. Merci beaucoup, M. Ménard, d'avoir été avec nous ce soir.
Bien, merci de nous avoir permis de passer l'appel. Et
au revoir.
On attend vos auditeurs avec joie.
Faisons un saut à Québec où le pont Pierre-Laporte qui relie Québec à la rive sud serait en très, très mauvais état. Selon un rapport datant d'avril dont le contenu a été révélé hier par Radio-Canada, l'usure des câbles soutenant la structure serait si avancée qu'il faudrait les remplacer et le plus tôt possible. Il y a le ministre des Transports, François Bonnardel, qui a été mis au courant de la situation hier seulement. Il a ordonné que le remplacement des câbles se fasse plus rapidement. Notre collègue Simon Bourassa s'est penché sur ce dossier aujourd'hui.
Beaucoup de réactions aujourd'hui à la suite de ce qu'on a appris via le reportage de l'émission Enquête de Radio-Canada, comme quoi ils ont obtenu un rapport d'ingénieurs du ministère des Transports du Québec qui dit que des suspentes du pont Pierre-Laporte, donc les grands câbles d'acier là, qui sont en très mauvais état et que leur résistance est diminuée, si bien que la sécurité sur le pont Pierre-Laporte est vraisemblablement compromise. Le ministre des Transports, François Bonnardel, a réagi aujourd'hui. Il dit que d'abord, il trouve inacceptable le fait qu'il n'a jamais été mis au courant de l'existence de ce rapport. rapport. Aussi, bien, tente de rassurer les gens en disant, bien, on prévoyait remplacer les suspentes d'ici 15 ans. Finalement, bien, on va essayer de faire ça plus rapidement. Puis ça a été confirmé, hein, le pont Pierre-Laporte, là, dont les suspentes vont être remplacées plus rapidement. On va accélérer le plan qui initialement avait été prévu. Puis tente de rassurer les gens aussi en disant que le pont, finalement, est sécuritaire. Pour le maire de Lévis, c'est clair, ça prend un troisième lien.
Ça fait longtemps qu'on dit là, que ici, entre les deux rives, on est avec des infrastructures désuètes. Ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait longtemps qu'on le pense, puis c'est la raison pour laquelle nous, on se dit, ça prend un nouveau lien au plus sacré. Écoutez, les conséquences peuvent être graves. Là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça nous inquiète énormément.
Le maire de Québec, Bruno Marchand, lui, n'embarque pas dans cette rhétorique. Pour lui, le troisième lien et le dossier du pont Pierre-Laporte sont deux affaires complètement différentes.
Si le pont Pierre-Laporte ne peut plus être utilisé, c'est pas un troisième lien qui va répondre entièrement aux besoins qu'on a présentement quand les gens traversent le pont Pierre-Laporte. Alors, je nomme le camionnage, mais je nomme aussi la circulation, notamment par l'ensemble des évaluations de circulation à l'ouest de la ville, autant à Lévis qu'à Québec. C'est pas un troisième lien qui va répondre à ça. Les matières dangereuses, c'est pas un tunnel qui va répondre à ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est indépendant. La situation du pont Pierre-Laporte nécessite une évaluation du pont Pierre-Laporte. Et si on a besoin de remplacer le pont Pierre-Laporte, c'est à l'ouest qu'on a besoin d'avoir un autre pont, comme on l'a fait à Montréal.
Et on a rencontré un peu plus tôt des citoyens de Lévis qui, eux, s'inquiètent du pont Pierre-Laporte.
C'est très inquiétant. Je trouve qu'ils devraient faire des travaux pour ça.
Vu l'état, c'est quand même dangereux. Il y en a comme plusieurs vies qui sont en danger. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Et...
Bien, évidemment, ça m'inquiète toujours un peu, comme je croirais tout le monde. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il va y avoir un troisième lien et ils vont réparer celui-là en attendant. Merveilleux.
Oui, je trouve ça inquiétant aussi. Je pense qu'il faudrait agir puis ne pas tarder. C'est un must, comme on dit.
C'est pas nécessairement que c'est être en faveur, c'est que ça devient presque une obligation d'avoir un autre lien, là.
La GRC a mené aujourd'hui une série de perquisitions à Plessisville et à Saint-Ferdinand, au centre du Québec. C'est dans le cadre, en fait, d'une enquête sur un groupe terroriste néo-nazi. L'enquête a été amorcée en 2020 par l'équipe intégrée de Sécurité nationale. Il y a plus de 60 policiers fédéraux qui ont participé à cette opération, dont nous parle ma collègue Amélie Saint-Yves.
La GRC a frappé tôt ce matin au centre du Québec, sur la rue de la Coopérative à Plessisville, mais également tout juste à côté de l'église de Saint-Ferdinand. Essentiellement, on a ciblé des immeubles d'habitation. Ce sont des perquisitions qui seraient liées au groupe terroriste néo-nazi, la division Atomwaffen.
Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un groupe qui a été listé par le gouvernement du Canada, la Sécurité publique, en 2021 comme étant un groupe terroriste avec une influence néo-nazi.
La GRC limite ses commentaires. On sait que l'enquête a commencé en 2020. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'arrestation, mais ce n'est pas exclu.
C'est vraiment une opération afin de recueillir de la preuve. Ce n'est pas exclu qu'il y ait éventuellement des accusations et aussi d'autres actions policières sont possibles, si, dépendant de la preuve qui serait ramassée ici aujourd'hui. Non, la sécurité du public n'a pas été en danger. En fait, on a déployé suffisamment de ressources. Il y avait une soixantaine de policiers déployés ici, incluant notre groupe tactique d'intervention, notre maître chien, des unités de support pour soutenir l'enquête et les enquêteurs. Et aussi, on a l'assistance de la Sûreté du Québec, les patrouilleurs, afin de nous assister dans leur juridiction pour le périmètre.
Selon nos recherches, la division Atomwaffen a été fondée aux États-Unis en 2013 et appelle à la violence contre les groupes raciaux, particulièrement les Juifs.
Une menace de grève guette le Canadien national. Il y a quelques 750 membres, pardon, de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité travaillant pour le CN qui ont annoncé qu'ils pourraient débrayer à compter de samedi si les deux parties ne parviennent pas à conclure une entente de travail d'ici là. En fait, le Canadien national assure cependant qu'il sera en mesure d'assurer la poursuite des activités habituelles malgré le débrayage annoncé. C'est une œuvre artistique qui a fait couler de l'encre avant même d'être installée. Déjà, bien, elle divise les résidents et les travailleurs du centre-ville de Montréal. Je vous parle en fait de ce gigantesque anneau signé Claude Cormier. On va aller retrouver mon collègue Louis-Philippe Bourdeau qui est au centre-ville de Montréal. Salut Louis-Philippe.
Salut Michel.
L'anneau devrait être ici très, très prochainement, mais on ne veut pas trop s'avancer sur une date précise. en raison des enjeux techniques, parce que c'est assez gros.
Voilà, faudra être encore un peu patient. Le suspense qui se poursuit, parce qu'en effet, l'anneau est assemblé au sol ici au centre-ville de Montréal. C'est assez impressionnant. Pour ce qui est de la date où ce sera fait, où on pourra enfin voir l'installation finale, bien, on ne veut pas avancer de date, en effet, parce qu'il y a plusieurs facteurs techniques à évaluer. Ce ne sera même pas fait de manière publique. On nous avertira après, nous a-t-on dit aujourd'hui. Par contre, bientôt, les Montréalais pourront se faire leur propre opinion sur ce projet, sur l'intérêt et la pertinence du projet de Claude Cormier au centre-ville de Montréal. Et je te rappelle l'ampleur de ce projet. La structure qui a été produite à Trois-Rivières, assemblée à Montréal, une structure de 30 mètres de diamètre en acier, pèse près de 23 000 tonnes et a coûté 5 millions de dollars, une bonne partie qui a été payée par le privé. Donc, j'ai pu m'entretenir avec l'architecte paysagiste Claude Cormier, qui a entendu toutes les critiques, les a lues, les accepte, mais défend vraiment son projet cœur et âme, dit que ça va apporter de la fierté à Montréal. On peut l'écouter.
Ça fait 2 ans qu'on traîne le stress avec nous. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être les proportions sont bonnes? Est-ce que l'idée est valable? On sent que les gens sont très interpellés par l'objet. Donc ça, c'est très satisfait.
Vous avez probablement vu, il y a des gens qui ont dit, bon, pourquoi on investit de l'argent dans ça? C'est pas nécessairement ça que Montréal avait besoin. Vous les avez lus, vous les avez entendus. Maintenant, votre réponse?
Oui. Ma réponse, c'est qu'effectivement, l'idée d'une beauté dans la ville, de l'idée de créer une ville avec une identité, avec des points de repère uniques, particuliers à ce qu'elle est, elle, pour moi, ça ne fait que de renforcer le besoin de telle œuvre dans nos villes. Et un rapport à la beauté urbaine est aussi important, parce que c'est là qu'on développe un sens d'appartenance, un sens de fierté. Et ça fait partie de l'humain, d'être attaché à un lieu. Et ça, c'est primordial. On a le Mont-Royal, l'Université McGill, l'Hôpital Royal Victoria, le nouveau corridor qui a été créé. Donc, c'est quand même des moments d'histoire de la ville importante qui définit sa personnalité et ce qu'elle est.
Une fois que ce sera ici, Michel, ce ne sera pas complètement terminé. Prochaine étape, c'est l'illumination. On va installer une vingtaine de projecteurs qui seront mis en place au mois de septembre, donc s'il n'y a pas de nouveau délai. Donc, bon, une autre étape, encore un peu de patience, mais on finira par voir cet anneau un jour ou l'autre.
Mais parions que l'illumination, ça sera public. On va se le souhaiter. Merci beaucoup.
On l'espère, du moins, au mois de septembre.
Salut, bye-bye. C'est demain qu'auront lieu les essais libres sur le circuit Gilles Villeneuve. Les préparatifs en marge de la course demandent quand même un travail rigoureux, vous l'imaginez, pour s'assurer que tout est conforme à la sécurité et surtout aux normes de la Fédération internationale automobile. C'est mon collègue Mickaël Guerrier qui en a parlé avec les responsables de la sécurité.
À quelques heures de la présentation du Grand Prix du Canada, je me suis entretenu avec des responsables du club automobile Notre-Dame, ceux qui s'assurent que la piste soit aux normes de la Fédération internationale automobile.
Élise Racette, présidente du club automobile Notre-Dame. On dit club organisateur du Grand Prix. Je pensais que c'était François Dumontier qui faisait ça. C'est quoi la différence?
Bien, en fait, la majorité des Grands Prix, il y a un côté commercial, il y a un côté sportif. Nous, on se trouve à être l'extension de la FIA, qui est la Fédération internationale automobile, qui gère tout ce qui est sportif. Donc, le code sportif, les règlements de course. Donc, c'est tout le personnel qui est en poste autour du circuit. Le personnel de course est sélectionné, ils sont formés. Surtout, dans le cas des signaleurs, on leur demande d'avoir des années d'expérience, un nombre de courses d'expérience. Puis, il faut pas oublier aussi, c'est tous des bénévoles.
Des bénévoles qui sont sous votre direction. Et de ce que j'ai compris, vous êtes la première femme, non seulement à Montréal, mais sur la planète, à être directrice, si on veut, du club automobile qui s'occupe de la course?
Bien, en fait, je ne savais pas quand j'ai pris le poste. C'est un ami à moi qui m'a informée. Mais moi, j'ai toujours pris ma place. Fait que peu importe que c'était des hommes ou des femmes, je me suis toujours démarquée. Puis j'ai dit, bon, mais moi, il y a une job à faire, je la fais. Mes bénévoles, c'est eux autres, mes boss. Si l'année prochaine, tout mon monde a été satisfait, puis qu'ils reviennent, bien, pour moi, c'est mission accomplie.
Je m'appelle Iskandar Sakali. Et je suis directeur de la sécurité piste pour l'Automobile Club de l'île Notre-Dame.
À quel point c'est un défi pour vous d'entretenir la piste, de la garder au niveau de sécurité qui est requis par la F1?
Le bitume, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez stable parce qu'ils emploient la meilleure qualité de bitume au monde pour la piste, pour éviter justement d'avoir des dégâts souvent. Et si je ne me trompe pas, on est dû pour un resurfaçage complet d'ici un an ou deux. Les autres défis, c'est des murs qui se tassent par la neige ou la végétation qui pousse trop, qu'il faut trimer. Chaque année, c'est différent, les défis. Là.
Qu'est-ce qui a changé au niveau de la sécurité pour les pilotes et de la course en tant que telle? Parce que les voitures ont complètement changé.
Si vous regardez une Formule 1 contemporaine, c'est à peine si on peut voir la tête du pilote, parce qu'il est enfoncé avec les protections latérales. Et en plus, depuis 2018, il y a le halo, c'est quand même un arceau de sécurité qui vient protéger la tête du pilote. Si vous reculez les années où moi j'ai commencé, là, les pilotes, on pouvait les voir de l'épaule ici en montant. Et surtout depuis la mort d'Ayrton Senna en 1994, je vous dirais, ça a vraiment été comment on peut minimiser le risque à la vie. Dans le temps, il y avait des murets en béton uniquement. Là, il y a ces mêmes murets-là, mais en avant de ces murets-là, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle les Tech Pro. Vous les voyez presque à toutes les courses à travers le monde. Puis c'est des outils qui sont utilisés pour réduire l'impact et absorber l'énergie cinétique pour enlever ça du corps du pilote. On est 850 bénévoles. Il y en a de toutes sortes. Il y a des pompiers, il y a des médecins, il y a les signaleurs, évidemment. Il y a les gens d'entretien de piste, il y a les équipes de récupération qui vont aller chercher les voitures quand il y a un incident. C'est une grosse famille. On a du fun ensemble.
La pluie continue de s'abattre sur Montréal. Est-ce qu'il y aura un concert extérieur au Franco ce soir? Ben, on va faire le point avec mon collègue Seb Lauzon, qui est toujours dans le quartier des spectacles à cette heure-ci. Septième journée des Franco de Montréal. Bien, il y a des intempéries. Ça change peut-être un peu les plans. Heureusement, il y a des artistes qui ont pu faire des représentations à l'intérieur. On va faire le point avec notre collaborateur, Seb Lauzon, qui est à la place des festivals. Salut, Seb.
Salut, Michel.
Alors, est-ce qu'il y a des annulations de spectacles pour ce soir?
Bien, malheureusement, oui, le premier spectacle, celui qui débute la soirée à l'extérieur, celui de 17 h, a été annulé, celui de Florence Kahn, en fait, pour préciser. Mais pour l'instant, ce que l'on fait du côté du festival, évidemment, on veut assurer la sécurité des festivaliers qui viennent. Donc, on surveille les radars météo minute par minute. Et jusqu'à maintenant, c'est le seul spectacle qui a été annulé. Comme vous pouvez le voir, ça s'est calmé un petit peu là, jusqu'à maintenant. Et parlant d'annulation, bien, je peux vous passer une petite nouvelle de dernière heure. Il y a un spectacle qui avait été annulé pour cause de COVID cette fois-ci, celui de Marc Dupré. Il devait avoir lieu à l'intérieur le 11 juin dernier. Ça sera repris le 30 octobre prochain. Donc, pour le restant des spectacles, je peux vous dire une chose, ça devrait avoir lieu. On a regardé les radars météo et probablement, quelque part en fin de soirée, le gros spectacle de Juliette Armanet devrait avoir lieu, mais on va vous tenir au courant.
Bon, espérons qu'il n'y aura pas de pluie d'ici là, que ça va se calmer. Au moins, il y a Lisa Leblanc et d'autres artistes qui font partie de la programmation en salle qui ont pu jouer, eux.
Effectivement, ces spectacles-là auront lieu un peu plus tard ce soir. Lisa Leblanc, tu le mentionnais, Michel, ce sera à 21h au MTELUS. Il y aura Sofiane Pamart du côté de la Maison symphonique de Montréal, à 19h à la Maison du Festival. C'est Barbara Pravi et finalement, vous pourrez voir également Larry Kidd qui avait ouvert le festival à l'intérieur et qui le fermera à l'extérieur avec la formation Loud Larry Adjust. Donc, Larry Kidd sera du côté du Club Soda à 20h pour nous présenter son spectacle solo. Donc oui, effectivement, il faut le mentionné. Prenez le temps d'aller voir s'il reste des billets parce que souvent, il y en a pour les spectacles en salle. On le sait, les gens ont envie de vivre l'extérieur. Donc, normalement, il devrait y avoir des spectacles à l'extérieur, mais il y en a à l'intérieur également.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On suit le compte Twitter des Franco, pour être sûr?
Facebook, Twitter, également l'application et le site des Franco, francomontréal.com.
Merci beaucoup, Seb. Bonne soirée quand même. Bye-bye.
Avec plaisir. À plus.
Bonsoir, Sabrina.
Bonsoir, Michel.
Grosse nouvelle pour ce qui est du Canadien. Il y a le capitaine du Canadien, Shea Weber, qui a été échangé.
Mais oui, ça vient de tomber au cours des dernières minutes. Mm-hmm. Il a été échangé aux Golden Knights de Vegas contre Evgeny Dadonov. Lui, c'est un joueur qui a déjà joué pour les Panthers de la Floride et les Sénateurs d'Ottawa. Shea Weber, il y avait quand même déjà des rumeurs possiblement d'échange jusqu'à aller prendre sa retraite. Donc, on tombe quand même pas en bas de notre chaise aujourd'hui. Il était capitaine du tricolore depuis 2018 et il était arrivé avec le Canadien de Montréal en 2016-2017. Et on sait qu'il avait complètement raté la dernière saison en raison de nombreuses blessures.
Grosse transaction. Ouais. La météo, c'est toujours aussi instable. On regarde dehors, là.
C'est ça, ce que je m'en allais dire. On regarde ici le coin Papineau, René Lévesque, en plein cœur du centre-ville de Montréal. Ça tombe extrêmement fort en ce moment. D'ailleurs, il y a toujours des alertes d'orages violents pour ce qui est de l'île de Montréal et également Laval. Donc, soyez vigilants. Si vous sortez à l'extérieur, bien, ça va vous prendre un bon parapluie pendant qu'on voit des images là, qui avaient été tournées dans le nord de l'île de Montréal.
On sait que quartier-ville, exact. Vraiment impressionnant, ce nuage. En terminant, le métro va être...
Le métro, on va... plein d'affaires ce soir, 22h, Luc Ferrandez notamment, puis on va parler des audiences publiques pour l'assaut du Capitole.
Merci beaucoup. Bonne soirée, restez à l'abri. On se retrouve demain 17h.